Vous montrez assez, Charles, répliqua Gaucher, que vous ne vous trouviez pas à Courtrai voici 13 ans. Vous étiez alors à guerroyer en Italie pour le pape. Moi, j'ai vu cette piétaille de Tisserand, comme vous l'appelez, mettre à mal nos chevaliers qui s'étaient trop hâtés, les renverser de leurs montures et les découper au couteau, dans leurs armures, sans daigner faire de prisonniers. Il faut croire alors que je manquais, dit Valois avec une suffisance qui n'était qu'à lui. Cette fois, je suis là. Le chancelier Mornay chuchota à l'oreille du jeune comte de la Marche. Entre votre oncle et le connétable, il ne sera pas long que l'étincelle jaillisse. Dès qu'ils sont de front, la colère les prend seulement de se voir.
« la pluie !» disait Louis X avec rage. « Aurais-je donc toujours toute chose contre moi ?»
Une santé incertaine, un père dont l'autorité glaciale l'avait pendant 25 années écrasé, une épouse infidèle et scandaleuse, des ministres hostiles, un trésor vide, des vassaux révoltés, une disette l'hiver même où commençait son règne, une tempête qui manquait d'emporter sa nouvelle femme. Sous quelle effroyable discorde de planètes que les astrologues n'avaient pas osé lui révéler, fallait-il qu'il fût né pour rencontrer l'adversité en chaque décision, en chaque entreprise, et finir par être vaincu, non pas même en bataille, noblement, mais par l'eau, par la boue, où il venait d'enliser son armée. À ce moment, on lui annonça une délégation des barons de Champagne conduits par le chevalier Étienne de Saint-Phal et qui demandait une révision de la charte qu'on leur avait octroyée au mois de mai. Les Champenois menaçaient de quitter l'Ost s'ils n'obtenaient pas satisfaction immédiate.
« Ils choisissent bien leur jour !» s'écria le roi. « Quand on commence à lâcher du fil, » dit Gaucher en balançant sa tête de tortue, « il faut s'attendre à ce que toute la pelote y passe. »
Chaque bannière de l'Ost présentait une physionomie particulière qui tenait autant au caractère de sa province d'origine qu'à la personnalité de son chef. Dans celle du comte de Poitiers régnait une discipline sévère. Les alignements de tentes y étaient rigoureux, les allées dégagées et remblayées autant qu'il se pouvait, les sentinelles régulièrement espacées. Et l'on n'y manquait pas de vivres, ou pas encore. Lorsque les chariots avaient commencé de s'embourber, Poitiers avait ordonné de répartir les denrées de subsistance et d'en charger les hommes de pied. Ceux-ci avaient d'abord maugréé, aujourd'hui ils bénissaient Monseigneur Philippe. De même qu'il appréciait l'ordre, Poitiers appréciait le confort. 100 valets d'armes avaient été employés à creuser des fossés d'écoulement avant de planter son trèfle sur un sol de rondin où l'on pouvait vivre à peu près au sec. Presque aussi riche et spacieuse que celle du roi, cette tente comprenait plusieurs appartements séparés par des tapisseries. À cette heure où son frère s'emportait contre la députation champenoise, Philippe de Poitiers, assis sur son fauteuil de campagne, son épée, son écu et son aume posés à portée de la main, conversait tranquillement avec ses principaux bannerets. S'adressant à l'un des bacheliers de sa suite, il lui demanda « Héron, avez-vous lu, comme je vous en ai prié, le livre de ce Florentin ?»« Dante dei Alighieri ?»« C'est cela même. Qui traite si mal ma famille, m'a-t-on dit. » Il était fort protégé de Charles Martel de Hongrie, le père de cette princesse Clémence qui bientôt nous arrive pour reine. J'aimerais savoir ce que compte son ouvrage.
« Je l'ai lu, monseigneur, je l'ai lu, » répondit Adam Héron. « Ce messer Dante imagine, pour commencer de sa comédie, quand, la 35e année de son âge, il se perd dans une forêt sombre où le chemin lui est barré par des animaux effrayants, à quoi messer Dante reconnaît qu'il s'est égaré du monde des vivants. »
Les barons qui entouraient le comte de Poitiers se regardèrent avec surprise. Le frère du roi n'aurait jamais fini de les étonner. Voilà qu'au milieu d'un camp de guerre, dans le désarroi où l'on était, il n'avait soudain d'autre souci que de s'entretenir de poésie, comme s'il s'était trouvé au coin du feu, en son hôtel de Paris. Seul le comte d'Evreux, qui connaissait bien son neveu et l'appréciait chaque jour davantage depuis qu'il servait sous ses ordres, avait deviné l'intention.
Philippe cherche à distraire ses chevaliers de cette mauvaise inaction, et plutôt que de les laisser s'échauffer la cervelle, il les mène à rêver en attendant de les mener se battre.
Car déjà, Anseau de Joinville, Goyon de Boursay, Jean de Beaumont, Pierre de Garancières, Jean de Clermont, s'étant assis sur des coffres, écoutaient l'œil brillant le récit du bachelier Héron d'après le Dante. Ces rudes hommes, brutaux souvent dans leur façon de vivre, étaient épris de mystérieux et de surnaturel, et toujours prêts à accueillir le merveilleux. Les légendes les séduisaient. Le spectacle n'était pas sans étrangeté que celui de cette assistance vêtue de fer qui suivait avec passion les allégories savantes du poète italien,
s'interrogeait sur la beauté de cette dame Béatrice, aimée d'un si grand amour, frémissait au souvenir de Francesca di Rimini et de Paolo Malatesta, et soudain s'esclaffait parce que Boniface VIII, en compagnie de quelques autres papes, rôtissait au 18e cercle de l'enfer, dans la fosse des trompeurs et des simoniaques.